Bonjour Marie-Bertrand.
Bonjour.
Donc, merci de participer à ce salon du livre, le premier salon du livre de la ville de Mexique. Et racontez-nous un petit peu votre parcours d'écrivaine. Est-ce que vous avez une spécialité? Qu'est-ce que vous présentez en général?
Dites-nous voilà. Tout. Alors déjà, pour moi, venir ici au salon, c'était très particulier, puisque moi, j'ai habité Mexique pendant 30 ans, que j'ai même été au conseil municipal avec M. Cortés,
d'accord,
et que j'étais à la culture, et que effectivement je suis venue pendant plusieurs années aux réunions avec l'architecte. J'ai même choisi les sièges de la salle de spectacle.
Waouh,
à l'époque.
D'accord, formidable,
voilà.
Formidable.
Voilà. Donc voilà. Alors, ce que j'écris. Alors moi, j'étais professeure de lettres. Par rapport à l'écriture, je crois que mon envie d'écrire, elle a démarré quand j'étais très petite. En fait, c'est vers l'âge de 7-8 ans, dans mon lit, je m'inventais des histoires. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'appelle le pouvoir de la créativité. Alors moi, je suis née dans les Ardennes. Donc bien sûr, c'était une histoire de chevalier, de princesse, etc. Et donc, j'ai découvert que j'avais le pouvoir. Ben, un soir, dans mon lit, j'avais une princesse, j'avais un chevalier. Le lendemain, je voulais en faire un gentil, un méchant. Je voulais lui coller, le transformer en crapaud, en grenouille.
C'était carrément le cinéma.
Et voilà. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais avec mes idées et mes pensées, je peux faire ce que je veux.
C'est voilà. Génial, ça.
C'est là où j'ai découvert. Alors après, j'ai eu les histoires que me racontaient mes parents quand j'étais toute petite, celles que moi j'ai inventées dans mon lit, et aujourd'hui j'ai l'impression que je continue la même chose.
Formidable.
Voilà. Alors j'ai commencé par écrire du roman et de la nouvelle.
Oui.
Et il y a quelques années, je me suis mise aux romans policiers régionaux. Pourquoi? Alors moi, mes policiers ne sont pas violents. Je ne suis pas dans un thriller, je ne suis pas dans un roman violent. En fait, j'ai essayé, l'idée c'était d'entraîner le lecteur un petit peu dans la région, de lui montrer certains bâtiments, ou d'aller, j'étais prof de lettres, mais j'aime beaucoup l'histoire. Voilà. Et je savais que ça ne serait pas quelque chose, comme j'ai dit, avec du sang partout.
Et nous avons une histoire très riche en Alsace, il faut
justement
dire qu'il y a habité depuis.
Voilà. Alors, donc, dans ces quatre romans policiers régionaux, on va dire que je suis dans la réalité historique, la réalité géographique, la réalité même architecturale.
Oui, le cadre est
voilà.
Tout à fait.
Je suis vraiment dans cette réalité-là. Après, il y a un peu la fiction pour le crime. Et chez moi, c'est tous les quatre. Dans les quatre, c'est le même commandant de police qui fait les enquêtes. Et mon commandant Keller, Charles-Édouard Keller, qu'on appelle Smart parce qu'il aime les beaux habits.
Cool.
Voilà. Et en fait, les points communs, c'est qu'au point de vue de la structure littéraire, on fait souvent des allers-retours entre le présent et le passé.
D'accord.
Mensonges et secrets de famille.
Cool.
Voilà.
Excellent.
Et que, comme je me suis pas mal intéressée aussi à la psychologie, j'essaye aussi d'attacher pas mal d'importance à la psychologie de mes personnages. Voilà.
Donc vous avez quatre romans, et c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, parce que ceux que j'ai écrits, les romans et les recueils de nouvelles que j'ai écrits avant, ça c'est fini. On a arrêté de les publier, oui, quand j'ai commencé à écrire du roman policier.
D'accord. Et là, oui.
Alors je vais vous donner simplement les thèmes, si
oui.
Vous voulez, rapidement.
Oui, bien sûr.
Voilà, dans l'homme au bouton de manchette, je mets en valeur l'art verrier, parce que j'aime beaucoup le verre. À travers une paire de boutons de manchette de René Lalique. On va
d'accord.
Au musée Lalique, on va à Meisenthal, Gotzenbruck, et on remonte dans le Strasbourg des années 30, dans la petite France, la Krutno, la Neustadt.
Eh ben.
Dans le deuxième, le dernier bain d'Adèle, on va démarrer au bain municipal de Strasbourg, boulevard de la Victoire, et l'enquête nous emmènera à la maison de correction du Bon Pasteur, qui était située quartier des 15,
oui,
derrière
boulevard Tolère. Hein. Oui,
voilà.
Je vois très bien.
Donc c'était les sœurs de la charité oui. Du Bon Pasteur qui tenaient cette maison. Dans le dernier bain d'Adèle, j'évoquerai aussi l'impact de la Seconde Guerre mondiale à travers le camp de Fortbruck-Schirmeck, pas le Struthof, mais l'Ouvre.
Oui.
Et puis bon, bien sûr, passage souriant, on ira au Mont-Saint-Odile.
Oui.
Voilà quand même l'emblème de l'Alsace. Et puis, dans le troisième, du sang sur le sable. Je suis partie de l'idée qu'en 1870, en Alsace-Lorraine, on a eu une très forte émigration d'Alsaciens-Lorrains en Algérie, qui était déjà française, parce que c'était la guerre avec la Prusse et que les jeunes gens, on les appelait les optants, il fallait qu'ils choisissent, soit ils rentraient dans l'armée prussienne, soit ils partaient, ils émigraient. Bon, beaucoup ont émigré en Algérie française ou bien sont partis aux États-Unis. Et donc, dans ce livre-là, ben, il y aura l'histoire d'un jeune homme qui quitte l'Alsace en 1870, et puis l'installation en Algérie des 4-5 générations suivantes jusqu'au le retour de ceux qu'on a appelés les Pieds Noirs en 62.
Oui, c'est ça.
Alors, je ne refais pas la guerre d'Algérie, on est bien d'accord.
Oui,
mais
oui.
Je prends un événement tragique.
Bien sûr.
Et puis, surtout, dans celui-là, j'évoque aussi la psychologie un peu des traumatismes, de guerre ou d'autre chose. Sur le moment, on met le couvercle. Et puis après, c'est un autre événement qui va venir faire exploser le bouchon du premier. Et puis là, en général, le personnage va très, très mal.
D'accord.
Voilà. voilà. Et dans le dernier, les vivants font vivre les morts. Je cherche toujours avant d'écrire des bâtiments qui m'intéressent. Et là, je suis allée sur le musée, je me suis intéressée au musée Vaudou, qui donc, à Strasbourg, effectivement,
il y a
beaucoup
un musée
de gens
Vaudou
ne le.
Oui, voilà. Écoutez, avec vous, j'apprends plein de choses. Enfin, avec d'autres.
Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Strasbourg,
ici.
On a un musée Vaudou. Il est
ah, oui.
dans l'ancien château d'eau qui ravitaillait les machines à vapeur derrière la gare.
Je vois.
Et donc, dans ce château d'eau, alors ce château d'eau a été racheté par un brasseur strasbourgeois qui avait beaucoup chassé et qui s'était passionné pour les arts premiers, les masques, les statues dans la région du Vaudou, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le Nigeria, etc. Et donc, il a racheté ce château il y a une dizaine d'années. Il l'a remis un petit peu en état. Bon, ce qui est très bien, c'est qu'il a gardé la structure, il a gardé une cuve du château d'eau,
d'accord.
On peut voir par en dessous.
D'accord.
Et puis, il a installé toute cette collection privée cet ancien château d'eau. Et mon histoire, c'est tout simplement, je ne voulais pas rester sur le vaudou tout le bouquin. Donc, mon histoire, c'est un ethnologue de la Côte d'Ivoire qui va. Ivoirien qui donne des cours à l'Institut d'ethnologie de Strasbourg. Et donc, un soir, il est à Strasbourg, il va au musée Vaudou écouter une conférence faite par un prêtre vaudou sur le système divinatoire du vaudou, qu'on appelle le FA, F-A accent circonflexe. Malheureusement, il va y être empoisonné. Et
bien sûr.
L'enquête, à un moment donné, nous emmènera en Côte d'Ivoire.
Formidable.
Voilà. Et je voulais encore préciser
oui.
que sur la couverture du livre, le masque qu'on voit est un
oui.
masque ivoirien de l'ethnie baoulé et que ce n'est pas un masque vaudou.
Donc se précipiter sur le livre « Les vivants font vivre les morts » avec une magnifique couverture de ce masque.
Oui.
Et l'édition, c'est ?
Alors, c'est Cocriture.
Oui.
C'est un petit éditeur.
D'accord.
C'est pareil, alsacien. Enfin,
d'accord.
Voilà. Et, puis,
et comment on peut vous trouver ou acheter un livre
Je suis en librairie.
Vous êtes en librairie,
voilà,
d'accord.
Par exemple.
Aussi au Chrysetus, bien sûr.
Voilà, aussi au Chrysetus. Après, après on peut les commander chez l'éditeur.
D'accord. Eh bien, écoutez, formidable. Merci beaucoup.
Merci.
Une dernière question. Ils peuvent être lus de façon indépendante.
Oui.
On peut commencer par le dernier.
Voilà. On peut les lire d'une façon indépendante dans la mesure où l'enquête se termine à la fin du livre.
D'accord.
Après, il y a les gens qui... il y a deux types de lecteurs. Ceux qui les prennent comme ça un peu au feeling en fonction du
d'accord.
thème. Après, il y a ceux... Bon, quand j'avais que le premier, ils ont pris le premier. Ceux qui ont aimé, ils ont continué.
Oui, c'est ça.
Après, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui aiment bien commencer par le premier. Bon, c'est vrai que dans le premier, j'évoque un peu plus
la
personnage
ou
la psychologie du commandant de police.
Oui,
mais
c'est
bon, ça.
C'est le personnage, le fil conducteur de tout votre
oui,
roman.
Oui, voilà. Alors,
d'accord.
Des fois, sa vie, ça évolue un petit peu. Hein, voilà.
Bien sûr.
Mais on peut les lire vraiment. Voilà. Après, il y a ceux qui aiment, qui, comme me disait l'autre jour une amie, alors Charles-Édouard, là, il va bientôt revenir. Donc, parce qu'elle avait déjà les 4, hein, alors elle attendait le 5e.
D'accord.
Je suis en train de m'y mettre.
Bon.
Et donc, il y a vraiment deux types d'acheteurs. Quoi. Et il y a ceux qui commencent par le premier, puis après qui continuent.
D'accord. Voilà. Ben écoutez, là aussi, ça donne vraiment envie se précipiter vers votre écriture. Merci Marie-Bertrand.
Voilà.
Bonne continuation.
Merci à vous.
Voilà.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.